Ne manquez pas la 19e édition du Festival international d'art numérique Electra du 26 juin au 1er juillet et la Biennale internationale d'art numérique du 29 juin au 5 août à l'Arsenal et à la SAT. La thématique cette année est Automata, chante le corps électrique. Venez participer à la grande soirée d'ouverture de la Biennale le 29 juin à l'Arsenal. Faites l'expérience des œuvres numériques de l'exposition et assistez aux performances du Festival Electra, une soirée qui promet d'être inoubliable. Pour plus d'informations, visitez electramontréal.ca et notre page Facebook Electra Montréal. Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des trois accords, Plants and Animals, Chad Van Gallen, Kendall, Kid Kuna, Rhymes, Clopel Gag en solo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com. Navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency. Le Festival Diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval.
Jusqu'au 30 juin prochain, Vox, centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective Étant donné. Venez découvrir l'univers de 11 artistes où relevés GPS et montres intelligentes côtoient drones et caméras de surveillance. Leur projet explore de nouvelles façons de regarder le monde pour réfléchir aux possibilités et aux dérives technologiques. Étant donné est une exposition satellite de la 4e Biennale internationale d'art numérique. Jusqu'au 30 juin, au centre Vox, 2 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, coin Saint-Laurent.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble. Sur les ondes de choc.
Bonjour, mon nom est Mégane Bédard. Je souhaite la bienvenue à cet épisode numéro 174 de Pop en Stock. Et je vous invite à imaginer une scène. Imaginez un grand autobus à deux étages, peint avec le motif du Union Jack, qui se promène dans les rues de Londres. Il s'arrête devant le stade et en sortent cinq femmes, pleines d'énergie, de joie et de girl power. Ce sont Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Jerry Halliwell et Victoria Adams. On les connaît plus facilement sous leur nom de scène, respectivement Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice et Posh Spice. Elles ont chacun leur personnage, leur identité, leur attitude, mais à elles cinq, elles incarnent le girl power populaire de la fin des années 1990, les Spice Girls. Donc, pour parler de ces femmes ingouvernables de la musique, aujourd'hui, j'ai en studio un panel d'expertes et d'experts, en commençant par Camille Robert. Donc, c'est la première visite aujourd'hui à Pop en Stock. Bonjour, Camille.
Salut, très contente d'être ici.
Très contente de te recevoir ici en onde. Et pour te présenter brièvement, donc, tu es chercheuse en histoire, essayiste et militante féministe.
On peut dire ça.
On peut dire, entre autres.
Oui, entre autres choses, entre beaucoup d'occupations. Oui,
c'est ça. Donc, tu as un CV très rempli et un horaire très chargé, mais en même temps, je t'admire beaucoup pour tout ton travail et que je suis vraiment contente de t'avoir avec nous ici aujourd'hui.
Ah, merci. Je suis contente de parler des Spice Girls aujourd'hui.
Wouh! Et ensuite, prochaine invitée, Baron Marc-André Lévesque, donc qui était déjà venu ici à Pop en Stock. Baron, époux dévoué et poète, auteur de La chasse aux licornes et tout tango paru aux éditions de l'Écrou. Bonjour, Baron.
Bonjour, Mégane.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Très bien, je suis très contente de t'avoir avec nous ici aujourd'hui pour parler des Spice Girls. Et enfin, donc une voix que vous allez vous allez reconnaître un peu sa voix, donc c'est celle d'Hélène Lorrain.
Bonjour!
Rebienvenue à Pop en Stock.
Oui, ça fait longtemps que je suis venue.
Je suis vraiment contente que ça fait quand même un bon bout depuis...
Ça fait comme 9 mois à peu près.
Ouais, c'est ça.
Pas tout à fait un an encore.
Depuis que t'as arrêté
Ouais, c'était en septembre.
Wow!
Donc, je suis très heureuse d'être là pour les Spice Girls.
Et aussi, tu es quand même une spécialiste, notre spécialiste maison. Je pense que tu es celle de l'équipe de Pop en Stock qui connaît le mieux la musique pop et je pense son
et imagine toutes les affaires que je connais pas, fait que, tu sais, fait que... Wow, merci, là, je vais le prendre.
Ben, je suis très contente de vous avoir en onde et sans plus tarder, je pense que, en fait, pour me préparer à l'émission, j'ai écouté cet après-midi le film Spice World, donc chaudement recommandé par Camille et Marc-André qui sont avec nous aujourd'hui.
Et par moi aussi.
Et par toi aussi.
Oui, oui.
Oui, mais c'est ça, mais je pense que c'était... là, ça fait à peu près un mois.
Quelque chose de même.
Vous aviez suggéré. En fait, Baron t'avait suggéré l'émission, puis là, vous avez dit on écoutait Spice World. Moi, je connais pas grand chose aux Spice Girls. J'étais plus fan des Baby Spice, donc le rip-off québécois. Mais je sais pas, c'est ça, je connaissais pas trop les Spice Girls, puis là, je me suis dit je vais quand même m'initier un peu plus à l'univers et écouter le film. J'ai écouté ça tantôt cet après-midi avant de venir et j'ai été vraiment agréablement surprise et très contente.
C'était la première fois que tu l'écoutais?
Je pense que oui. Oui. Peut-être que je l'ai vu quand j'étais jeune, mais j'avais tout oublié, là. Mm-hmm. Puis, hey, c'est vraiment bon!
Oui, c'est vraiment bon.
Ouais,
oui,
comme
vraiment, là.
Non, on a été choqués de voir que sur IMDb, je pense que ça avait comme 3 étoiles.
Quelque chose comme ça, oui, un genre de 5 étoiles sur 10 ou un 3 étoiles, quelque chose de même.
C'est vraiment mal rated. Fait.
Ils comprennent rien.
Ils n'ont pas compris Spice c'est World.
Ça. En même temps, ça a sûrement été raté à sa sortie ou pas longtemps après sa sortie, ce qui fait que c'est comme en plein cœur du phénomène ou dans l'après-phénomène Spice Girls.
Mais en fait, ça a commencé à l'époque, là.
Ça a commencé à mourir un peu.
En 1997, fait que c'était comme dans le peak, mais début de la fin.
Ouais, exactement.
C'est ça, mais
exact.
Le début d'IMDB quand même aussi, le début des ratings, tout ça. Puis c'est pas un film, j'ai l'impression que les gens ont revisité par la suite pour aller le re-rater sur IMDB ou peu importe, ou sur d'autres sites de ratings. Donc c'est sûr que ça reste figé dans cette époque-là. Et dans cette interprétation-là aussi du film, tu sais, nous autres on l'écoute avec notre regard d'aujourd'hui qui est vraiment différent.
Éteindre la nostalgie et
ouais.
sachant tout ce qui est arrivé depuis 20 ans.
J'ai l'impression que ça a été vu pendant longtemps comme un simple produit dérivé des Spice Girls, mais le film en soi, j'ai l'impression qu'il a pas été vraiment, on s'est pas intéressé finalement pour ce qu'il était. Puis en le visionnant aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes dont on aura sûrement la chance de parler aujourd'hui.
Ben c'est ça, on peut plonger dans le sujet déjà en parlant du film, parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de sujets qui étaient abordés par Spice World, notamment toutes les questions vaguement féministes, la question du patriarcat, la question... Le film est super méta-narratif aussi, là, c'est, ce qui est quand même... Je pense que c'est le propre des films qu'on voit plus après 2005, mais aujourd'hui, c'est normal, aujourd'hui, d'écouter des films qui ont des références auto-réflexives comme ça, mais... Spice World le fait constamment, puis la trame narrative est basée là-dessus. Donc, je sais pas si vous voulez attraper un crochet que j'ai laissé pendre.
Mais une des influences les plus claires et remarquables de Spice World, c'est les films des Beatles, A Hard Day's Night et Help. Juste même dans la forme, là, dans les couleurs de Spice World, ça rappelle beaucoup Help, qui était un des premiers films en couleurs, t'sais, de manière... vraiment spectaculaire à l'époque. Dans la métanarration, c'est A Hard Day's Night beaucoup. Le fait que ce soit comme une espèce de vidéoclip qui change un peu, tu sais, de settings une fois de temps en temps, ça aussi, c'est A Hard Day's Night. Donc, il y avait quand même une... Ça se base sur quelque chose qui existait déjà dans la culture populaire. Et c'est un autre groupe anglais.
C'est vrai.
Puis, à la fin des années 90... Puis même encore aujourd'hui, j'aimerais ça qu'il y ait plus de musique, qu'on entende plus de musique britannique en Amérique du Nord. Il y avait eu c'était aussi comme l'espèce de fin, à la fin des années 90, de fin du Cool Britannia avec tout le Britpop, mais ça, ce qui était vraiment un courant plus pour initier ceux qui allaient danser dans les boîtes branchées, là. En 95, ça, bon, c'est sûr qu'il y avait Oasis et Blur, là, mais quand on allait plus creux, là, dans le... Non, j'ai un blanc. Le Britpop, c'était vraiment plus pour initier. Puis là, les Spice Girls arrivent, puis comme ils éclatent de leur Britishness, là, puis c'était tellement étrange, c'était tellement quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir.
Puis
les Beatles, c'est la même chose aussi. Ils étaient extrêmement britanniques, là. Ils n'ont jamais caché ça, contrairement genre aux Rolling Stones.
Ouais, c'est ça, l'accent fort, on a...
pas peur de mettre ça de l'avant. Sporty Spice, dans le film, qui fait juste rappeler constamment qu'elle vient pas de Londres, elle vient de Leeds. Dans le
Puis le fait qu'il y a des drapeaux partout. Partout. L'autobus est un drapeau. Le Ginger Spice, les robes de Jerry, ouais. Jerry qui reprennent le drapeau et toutes ces couleurs-là qui reviennent partout. Puis le fait que le film se passe évidemment à Londres, donc l'autobus passe à côté de tous les gros monuments de Londres, tout ça, donc il y a vraiment ce côté-là très 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 british, mais très 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 anglais, londonien, pop qui est vraiment...
La scène inoubliable du Tower Bridge.
Exactement.
Qu'on pensait qu'il était filmé en vrai, là, puis finalement c'est juste une petite maquette avec un autobus qui saute par-dessus. Mais
j'avais le souvenir clair de voir l'autobus voler entre les deux morceaux de pont, mais finalement c'était pas ça. Mais c'est encore mieux parce que c'est une genre de maquette et ça va avec le ton global du film qui est extrêmement cartoon,
qui se prend pas au sérieux
où t'as l'impression des fois que les Spice Girls improvisent, t'as l'impression que c'est vraiment une gang de chums qui font un film ensemble puis que puis elles s'amusent puis ils se laissent pas gouverner, ils se laissent pas contrôler ni par le producteur, le documentariste, ni par Roger Moore lui-même.
C'est constant
ce genre de non, on fait ce qu'on veut, puis ce qu'on veut, c'est ça, puis on va le faire, puis on va-tu faire une ride de bateau sur la Tamise? Oui. Puis là, tout le reste des personnages sont OK, on va s'arranger avec nos troubles, essayer de suivre notre schéma narratif, malgré le fait qu'eux autres vont aller se baigner dans Tamise, tu sais.
Quelque chose que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est tout au long du film, il y a vraiment une critique des médias, des paparazzis, de ce qu'on attend des Spice Girls en termes de performance, de concert. Puis à un moment donné, même, elles disent ben, on est épuisé, on veut plus faire plus de concerts, on veut avoir du temps libre, on veut passer du temps avec notre ami. Puis t'as constamment cette tension-là entre les exigences externes qui viennent du star system. Puis ce que ces filles-là veulent finalement, c'est-à-dire faire de la musique, être là les unes pour les autres.
Oui, puis c'est partout, surtout dans le début du film, qui moi, en commençant le film, ça faisait quoi à Hard Day's Night? Parce que t'as les crowds partout, t'as les fans partout qui les achalent, qui les courent après, puis c'est assez évasif. Puis là, t'as Elton John qui pop out of nowhere, qui dit « Hey, venez passer par ce petit chemin-là, je connais le stade, passez par ce chemin-là, vous allez être correct », ou qui semble les aider, qu'il y a un adjuvant qui passe puis qui s'en va. Mais je trouve ça vraiment beau qu'il y ait ça, ce genre de pression-là, mais qui disent, hey, il y a une façon de s'en sortir, il y a une façon d'être confortable avec ça. Puis tout le long du film, les Spice Girls ont ce genre de relation-là avec les fans qui est on vous apprécie, on vous aime, mais on a un espace qui doit être respecté. Puis à cette époque-là, en Angleterre, les tabloïds, les paparazzi sont très, très, très invasifs, justement. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, là, si on regarde que ce soit le Sun ou le Daily Mail, je sais plus, c'est quoi.
Une culture tabloïde de potins là, qui est particulièrement agressive. Ah. Ouais. Mm-hmm.
Non, oh, et c'est terrible.
Oui, mais ça se reflète justement dans cette scène-là au début du film où c'est ça, elles sortent dehors, puis là, finalement c'était pas du tout un passage secret. Là. Il y a plein de fans qui les attendent. Puis là, il y a comme la différence aussi, le fait que ce soit 5 femmes, les paparazzis et les fans ont pas comme vraiment la même relation où il y a comme constamment une espèce de harcèlement sexuel qui se fait. Là. Donc il y a comme le paparazzi qui met sa caméra comme plus bas pour essayer de prendre une photo en dessous des jupes, puis c'est montré de façon très explicite. Mmh. Puis je pense qu'avec notre regard d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est vraiment plus peut-être politisé que quand j'avais 5 ans, ben, sûrement, là, mais en 1997, les gens, ils voyaient ça comme tout à fait normal, j'imagine, ou je sais pas si tu peux préciser...
Ça fait pas longtemps là, qu'on parle de ce genre d'agressions-là comme étant justement des agressions sexuelles. Ouais. Ça fait peut-être 5 ans, gros max, là, j'ai tiré l'élastique, donc... À la fin des années 90, moi, j'avais 16 ans. Donc,
on n'en parlait pas comme ça.
16-17 ans, puis c'était comme... Haha, c'était presque drôle, justement. Mmh. Incroyable. Mais bon, ça, c'est une autre affaire.
En même temps, c'est présent, c'est représenté. Mmh. Et aussi, on les représente, les Spice Girls, comme combattant un peu cet envahissement-là de leur corps. Puis c'est un thème quand même assez important, je pense, de Spice World. Non pas juste pour dans un point de vue d'agression sexuelle, mais de justement tout le, comme tu parlais tantôt, Camille, le star system qui veut leur imposer une identité ou une identité facile à comprendre. Puis il y a tout le truc des rôles aussi. Mm-hmm. Là, ils ont chacun leur...
C'est ça. En fait, après avoir vu le film, j'avais lu un peu là-dessus, puis c'est des surnoms qui leur ont été assignés par les médias. C'est pas des surnoms qu'elles-mêmes avaient choisis. Ou leur équipe de promotion, là, mais finalement, dans le film, tu vois qu'elle décide quand même de prendre ces étiquettes-là, puis de jouer un peu avec ces rôles-là. Il y a une scène aussi où elle porte tous les costumes, puis elle les échange, mm-hmm. elle s'échange ces rôles-là.
Très belle scène.
Oui, oui.
C'est, mais en fait, moi, ce que ça me fait penser, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur les Spice Girls, puis on va pouvoir continuer à carburer là-dessus, c'est à quel point ils sont tout le temps à cheval en deux positions. Comme, c'est ça, ils acceptent les identités qui leur ont été données par les médias, mais en même temps, elles veulent s'en échapper. Ils aiment beaucoup leurs fans, mais des fois, ils les trouvent vraiment étouffants. La question, c'est ça, de... Bon, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais on parlait de... Il y avait toute la question de leur Britishness, mais en même temps, ils étaient extrêmement internationaux. Il y avait cette ambition internationale-là, dès le départ. Ils voulaient vraiment « make it big ».
Oui, puis c'est dans le titre aussi, c'est « Spice World ». C'est un « world phenomenon ». Et à chaque fois qu'on lit à propos des Spice Girls, on en parle comme un phénomène qui est global.
Oui.
Mais ce qui ressort, c'est le drapeau britannique. Ce qui ressort, c'est la Britishness qui est un peu exportée partout ou qui est un peu amenée partout comme ça. Mais c'est « Spice World ». Tu sais, on regarde, puis même l'affiche du film... World est écrit en très, très gros.
Puis ça allait avec... moi, je me rappelle, à l'époque, la promotion, c'était leur premier single de leur deuxième album. Qui était, je pense, la tune, je pense, c'était Spice World, justement. Puis le vidéoclip se passe dans un monde à la Blade Runner, comme super dark. Puis là, cette chanson-là, très positive. Non, Spice Up Your Life.
Oui.
Comment? Et puis... Puis là, c'était... Puis je me rappelle, moi, d'avoir pensé... C'est ça, avec ma petite histoire des Spice Girls, la voici, donc c'est ça, j'avais... 16-17 ans, quand c'est sorti, c'était ringard as fuck, là. Genre, j'étais en cinquième secondaire, c'était la chose la plus, comme, arc, la plus, comme, juvénile, poche. Mais, bien sûr, je connaissais toutes les chansons, parce qu'elles jouaient beaucoup, là. On était vraiment, c'était forcé à l'intérieur de nos gorges, là, vraiment beaucoup. Puis, j'étais allée voir Spice World parce que, tu sais, c'est pas bon. Bien sûr, j'étais allée voir, comme, au Dollar Cinema après une couple de mois. Puis c'est après que... J'ai commencé à écouter vraiment plus leur cassette. J'écoutais ça en cassette, incroyable. Puis
97 ans.
C'est ouais, c'est ça, j'ai acheté les cassettes. Je les ai écoutées comme des années plus tard quand j'avais encore un lecteur cassette. Puis c'est à peu près autour de ma vingtaine, donc 2000-2001, donc quelques années après vraiment la grosse vague que j'ai faite. Oh, oui, j'aime ça, les Spice Girls! Puis là, à partir de là, ça a été comme une histoire d'amour. Mais ça, pour revenir, quand on parlait justement d'ingouvernabilité aussi, une autre situation à cheval qui est intéressante, c'est que c'est un groupe qui a été monté de toutes parts et qui était un énorme vecteur de marchandises. Moi, j'y voyais partout à la fin des années 96. Alors, je les voyais à la caisse, aux Jean Coutu, là, tu sais, puis il y a des suçons Spice Girls, il y avait des...
Ah, des t-shirts à perdre de
sacs à dos,
des boîtes à lunch, des jouets,
des sneakers. Puis là, le film, c'est ça, c'était comme l'apothéose de ça, mais il y avait tellement de produits dérivés, là, ça en était comme aliénant, là, puis il faisait partie de ça, c'est sûr, il faisait toutes les photos de promo, c'est sûr qu'il devait avoir un certain genre de stratégie derrière ça, mais en même temps, on les juge aujourd'hui avec notre regard de ça fait 20 ans, comme étant, c'est ça, cette espèce de petite rebelle joyeuse, ludique, qui s'en foutaient, puis qui faisaient à leur tête. Moi, je trouve ça fantastique comment l'histoire a tourné ça.
Mais je pense que c'est là tout le paradoxe de ce qu'on appelle le courant girl power, là, c'est que c'est à la fois... une volonté d'empowerment à travers l'image des femmes, mais tout en correspondant quand même à certains standards. Puis,
donc, il y avait un gros discours sur leur sexualisation, leur hyper-sexualisation.
Ouais. Puis dans le film, t'as par exemple Jerry qui va parler de féminisme, mais en même temps, t'sais, elle reconduit certains codes aussi d'apparence physique, de performance, etc., qui... T'sais, sont inégalitaires fondamentalement, selon moi. Donc, il y a cette tension-là aussi, je pense, qui est présente avec les Spice Girls.
Ouais, ça serait intéressant aussi de parler un peu de l'époque à laquelle les Spice Girls ont fait leur plus grand succès, à la fin des années 90, qui était un peu aussi... C'est le backlash de tout le mouvement féministe de deuxième vague, si on veut, des années 80. Donc, il y avait comme un gros backlash où le mouvement féministe n'avait pas bonne presse. Donc, de pouvoir aménager un espace comme ça dans le paysage médiatique, oui, exactement, qui voulait revendiquer encore certaines, justement, pensées féministes sans la nommer, ça c'est très important, là. Donc, je pense qu'avant d'entrer en onde, Marc-André, tu disais que, justement, surtout Ginger Spice dans le film et dans sa vie de tous les jours, mais comme ses actes sont fondamentalement à visée féministe, mais son discours n'allait pas du tout
Non, c'est sûr. Même dans le film, elle va, je pense, dans un photoshoot de quelque sorte. Je crois que c'est Ginger Spice, Jerry qui le dit, mais elle fait un piece comme ça. Elle dit ah, « féminisme ou whatever ».
C'est Mel B, c'est Scary Spice déguisé en...
Oui, c'est ça.
Oh, oui. Donc, dans sa façon de se prendre pour Jerry, oui. Elle dit « ça doit être du féminisme, mais whatever, je suis pas sûr si c'est exactement ça, parce qu'elle ne le mentionne pas vraiment, mais ça ressemble à ça ». Donc, il y a ça aussi dans ce backlash-là, où on va pas le nommer comme étant féministe, mais on va vendre l'empowerment quand même. Puis ça va être un empowerment qui rejoint des gens, évidemment, parce que c'est un phénomène global, pas juste à cause du merchandising, mais parce que on parle de cette solidarité-là, on parle de ce girl power-là qui est à la base, il y a un fond qui est bon quand même, même si c'est un produit, même si elles ont été engagées dans le cadre d'un processus d'audition où on veut construire un produit mercantile, tu sais.
C'était pas nouveau aussi, ce processus de construction de band-là aussi.
Non, les Spice Girls sont vraiment aussi à mettre en parallèle et en opposition avec tout le mouvement Riot Girl qui avait lieu durant la première moitié des années 90, où c'était des féministes
punk,
sales. non, c'est des blagues. Mais il y avait vraiment plus une espèce d'aura pas propre, là, autour de ces filles-là, très revendicatrices, qui criaient. C'était pas de la musique agréable, comme à écouter.
Mais c'est le punk, là. Mais c'est toute l'idée du do-it-yourself, all the institutions.
Et du grunge aussi.
Oui, c'est ça. Donc, Bikini Kill, Babes in Toyland, bon. Et là, une couple d'années plus tard, les Spice Girls arrivent, prennent une partie du message du Riot Girl. On peut comprendre qu'il y avait des féministes en beau joualvert, là, de les voir aller, puis c'est ça, de les voir aller en mini-jupe, très mal articulées, leur girl power, qui se résume plus à comme...
Fun.
Ouais, on fait ce qu'on veut, on a du fun. Des fois, les garçons, c'est le fun, des fois, c'est pas le fun.
Qui rejoint le message de Cyndi Lauper, en fait.
Oui, mon Dieu, girls just wanna have fun.
Mais on peut se demander, tu sais, est-ce qu'il y a pas là, tu sais, au-delà même de la volonté de ces femmes-là, une certaine récupération du capitalisme, puis de la machine du showbiz, des enjeux, puis des revendications féministes, tu sais, qui s'étaient formulées dans les années précédentes, là. Puis ce que tu mentionnais, Megan, c'est super important, parce que, tu sais, à partir des années 80, 90, tout ça, t'as vraiment une espèce de morosité, puis le féminisme devient extrêmement impopulaire dans l'espace public après, tu sais, les années 70 puis tout ça. Puis jusqu'à même, je dirais, récemment, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça que le féminisme revient sur la scène publique.
Oui, tout à fait.
Que ça redevient acceptable de se dire féministe. Puis j'ai l'impression aussi que ce débat-là sur est-ce que tu peux être une icône de la pop puis te dire féministe en même temps est revenu un peu avec Beyoncé il y a pas si longtemps, là.
Il revient souvent, j'ai l'impression, ou est revenu souvent, en tout cas à cette époque-là, il y avait Beyoncé, comme tu dis, là, c'est comme... Je le vois comme un cycle.
Ouais, mais c'est toutes les recherches de Sandrine Galland sur le féminisme pop, mais c'est l'ambivalence ultime, justement, d'un mouvement qui est très militant, puis qui se veut très subversif de féminisme, et quelque chose de très consensuel, qui est le populaire. Donc, d'essayer d'allier les deux, c'est sûr que nécessairement, il va y avoir des paradoxes, puis des discours qui vont se contredire, mais il y a une récupération mercantile, et à la fois, il y a une diffusion massive d'un message qui ne serait pas autrement. Fait que c'est super complexe d'essayer de conjuguer ça, là. Mais ouais, c'est vrai qu'avec Beyoncé puis son gros féminisme, je sais plus c'est à quel... c'est au MTV Awards ou quelque chose comme ça, là.
En 2014?
Ouais, quelque chose comme ça.
Mon souvenir est flou aussi.
2014 ou 2015?
Je vais aller vérifier sur Internet.
Mais quand on parle de Beyoncé, en fait, moi, j'ai trouvé... Même à l'époque que Destiny's Child articulait beaucoup mieux le message girl power que les Spice Girls elles-mêmes.
Ou TLC, par exemple.
Oui. Donc, il y avait... Déjà à l'époque, il y avait quelque chose qui était... On sentait que c'était qu'il y avait quelque chose qui accrochait. J'aimerais ça. Est-ce que... comme inaugurer un sujet, si je peux dire, comme dévier la conversation.
Alors, moi, juste avant, c'était les VMAs en 2014.
Yes!
Maintenant, à toi, Hélène.
Moi, je sais que les Spice Girls, avec tous les différents personnages, même c'est ça, même s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'imposer, moi, c'est quelque chose que dans ma vie, c'est ça, j'avais comme 16, 17, 18 ans, puis plus tard, qui m'a beaucoup aidée. Comme ces filles-là, je les trouvais vraiment belles. Puis vraiment out there, puis vraiment affirmé, puis c'est quelque chose... Puis on voyait comme... Là, c'est plate à dire, là, mais on voyait comme leur courbe de poids, pratiquement, là, tu sais, comme... Ils changeaient aussi, puis ils se faisaient tout le temps dire qu'ils étaient trop grosses, là, mais tu sais, ils étaient comme... Ouais, mais tu sais, c'est ça, des filles, là, on est très heureuses de ça.
C'est ça, les êtres humains.
Là, c'est ça, c'est des êtres humains. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus inspiré comme dans ma vie de tous les jours que justement Beyoncé, Destiny's Child qui sont des déesses là, qui genre, sont juste intouchables. Là. Les Spice Girls, j'avais vraiment l'impression que je pouvais plus, c'était mes amis, que je pouvais plus comme relater avec ces filles-là. Notamment à cause des questions, effectivement, de santé corporelle puis d'image corporelle qui dégageait. Quand Jerry est parti, elle a fait un documentaire où elle parlait de ses troubles d'alimentation. Quand les quatre ensemble ont sorti un album en 2000, bon, qui était nettement moins bon, mais bon, ça, c'est une question. Puis dans les entrevues promotionnelles, il disait comme, « Oh, tu sais, la partie qu'on a vécue, là, 2-3 ans, là, c'était tough, puis on l'a pas eu facile, puis on a eu des problèmes de santé, là, de boulimie, puis d'anorexie, tout ça. » Puis il était très ouverte par rapport à ça, puis je trouvais ça tellement rafraîchissant entendre un discours aussi honnête qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup.
On le voit quand même beaucoup,
ouais. Exactement. On voit plus qu'avant.
Début 90, même 80, on voyait pas les chanteuses ou vedettes en général parler de ça. Pas. Mais non, on n'en parle pas de ça. Puis c'est ce que j'aime un peu aussi, ce qui m'a frappé avec le film, c'est que ça semblait très honnête et authentique malgré la grosse machine. On dirait que tu vois, c'est des êtres humains, c'est des chums, sont vraiment des bonnes amies, puis sont drôles, puis ont du fun ensemble. C'est pas tout le monde qui comprend leur fun. Moi, je comprendrais pas forcément toute leur fun, mais je vois qu'elles ont manifestement du plaisir à vivre leur journée, tu sais. Donc, on dirait que ça fait écho à cette authenticité-là, cette simplicité-là, puis le fait qu'on puisse dire, ben, ça pourrait être mes amis, ça pourrait être mes voisines, ça pourrait être...
Mais vous étiez pas mal plus jeune que moi, ben vous êtes encore plus jeune que moi, c'est encore un fait. Est-ce que... Mais toi, Megan t'a dit que...
Moi, j'avais 5 ans en 97 quand Spice World est sorti.
OK, mais tu relatais pas super gros aux Spice Girls?
Non.
Toi, ma Camille, est-ce que...
Moi, j'avais 8 ans, fait que quand je l'ai vu en cassette, peut-être...
Mais est-ce que tu sentais cette comme proximité-là avec ces filles-là?
Ben, j'ai l'impression que le public cible était quand même plus jeune, que toi à l'époque. Là,
c'est pour ça que c'était rigolo.
C'est ça. Ouais, nous, dans notre tranche d'âge, tu sais, fin primaire, je pense que c'était plus le gros hype. Mais je me rappelle qu'à l'époque, c'est ça, ça avait été une sorte de modèle, tu sais, de gang de filles qui se tiennent ensemble, puis qu'en même temps, elles ont toutes des différents styles, tu sais, puis que tu vois que t'as pas à t'habiller d'une seule manière, t'as pas à te comporter d'une seule manière. Puis je pense que, par exemple, Sporty Spice, ça a aidé comme certaines filles moins dans le style fille traditionnelle en petite robe à s'affirmer aussi à travers ce look-là plus décontracté.
Il y a toute cette idée-là des personnages qui est très, très, j'irais pas jusqu'à dire thérapeutique, mais c'est bon quand tu développes justement une identité à l'adolescence qui est comme « Ah, mais moi, je suis pas Spice. Moi, je suis Scary Spice. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. » Puis comme chaque personne, ça, je l'entends encore là, de gens qui fait comme « Ah oui, mais moi, quand j'étais Ginger Spice. » Puis là, c'est comme, il y a comme un... Même si c'est une construction qui a été faite par les producers et tout, ça donne cette identité-là, puis cette diversité des identités-là qui est très formatrice pour le public cible. Donc, éventuellement, c'est sûr que il n'y a pas que du néfaste de
oui,
de
oui.
Non, il y a du bien. Même le fait que ça soit une identité qui est fixe, qui est imposée par l'extérieur. Excuse-moi, est-ce que je t'ai coupé? Je t'avais pas si tu me passais à POC ou si tu avais une autre phrase après. Mais cette identité qui est fixe, là, qui est imposée par l'extérieur et que les Spice Girls elles-mêmes vont pas renoncer, mais dire on va la déconstruire ou je suis pas vraiment juste sportive. Et comme tu disais, Camille, ils vont s'interchanger les chapeaux. Je trouve que c'est dans le film, exactement. Donc, dans une scène vraiment le fun. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent dans les films qui visent un public jeunesse quand même. Genre, on a réfléchi beaucoup à Harry Potter ces derniers jours et juste la question des différentes maisons, comment ça va avec différents modes de personnalité, différentes sortes de personnes, je me rappelle un prof de cinéma québécois, ils avaient parlé de la Garde des Tucs comme quoi les jeunes allaient voir ça et s'identifiaient à un des 12-15 personnages ou après ça on ressort du film puis ah, moi je m'identifiais bien gros à Tiki la Lune, ah puis toi moi c'est l'autre. Ce fait là d'avoir plusieurs protagonistes qui sont vraiment vraiment différents et qui tout le monde participe à la quête, tout le monde se complète, ben tout le monde a sa Spice Girls qui ressemble, sa Spice Girls préférée ou moi j'avais mon Backstreet Boys préféré aussi, tu sais moi c'était Brian, je sais jamais pourquoi, mais mon préféré c'était Brian, puis de Jerry je la trouvais plus drôle des Spice Girls, tu sais c'est comme on a toutes notre préférée ou celle ou celui auquel on s'identifie et auquel on s'accroche, mais elle-même dans le film ce qui est le fun c'est qu'elle dit oh, mais regarde, on nous projette ça on est plus complexe que ça encore. Mm-hmm. Et là, ça donne... Ah, ben à partir de l'identité de la sportive, par exemple, tu peux être encore plus d'autres choses en même temps aussi, comme le film lui-même et un paquet de choses en même temps. C'est ça qui m'a marqué aussi quand on l'a vu il y a une couple de semaines. C'est que le film va être à la fois le genre de véhicule des Spice Girls pour faire la promotion du groupe, mais en même temps, va déconstruire ce concept même-là et devenir un genre de film de science-fiction, puis un film de sortes d'affaires, puis de courses, un film d'espionnage, un film d'action avec la course de voiture à la fin, un film sur l'amitié. Donc, c'est un film vraiment, vraiment complexe.
Une inspiration de Charlie's Angels aussi, je trouve.
Oui, c'est vrai. Ça reprend beaucoup d'imagerie de Charlie's Angels. C'est vrai, j'avais pas remarqué.
Avant, le reboot des films qui était plus au début, qui était une couple d'années plus tard.
Début 2001-2002, à peu près.
Puis avec toute l'ironie de Austin Powers, par exemple.
Oui,
tout le second degré, là, je pense que c'est Roger Moore qui a des animaux. Oui. Là, puis...
Ah, puis il dit des genres de phrases cryptiques, c'est un running gag dans le film, en fait. J'en ai pas qui me viennent en tête là, mais c'est des genres de métaphores bizarres.
Des espèces d'analogies qui n'ont pas de sens. Puis en même temps, il est comme, au début, il y a un chat.
Très
là,
Adam West.
Il flatte un lapin.
Un petit cochon.
Il y a sûrement une tortue à un moment
donné. J'ai aucun souvenir.
Mais c'est fascinant parce que c'est pas n'importe qui. C'est Roger Moore, c'est James Bond. On va prendre le bonhomme qui jouait James Bond, on va le déconstruire, en faire un personnage absolument vide, qui est un méchant, qui a vraiment de l'air, et on le montre comme étant un méchant de James Bond, joué par James Bond, mais qui a rien à dire sur le monde.
Il est très accessoire.
Non seulement il est accessoire, mais on le montre, les personnages qui y parlent, le seul personnage qui y parle en vrai... Il raccroche le téléphone, puis qu'est-ce qu'il t'a dit, le boss? Hey, je sais pas, là, c'est un peu cryptique, là, j'ai pas trop compris. Mais attends, on va faire ça. Peu importe ce que le patron il a dit, on va faire ça. Mais le patron, James Bond, il a rien à dire. Toutes ces phrases sont vides, mais sont vraiment intenses.
Oui, exactement.
Mais donc, c'est ça qui était le fun.
Ça me fait penser à... Je regardais le film, puis je me disais, tout la panoplie de personnages masculins qui gravitent autour des Spice Girls et qui veulent leur perte,
Mais qui veulent surtout les contrôler. Le boss, Roger Moore, veut les contrôler. Le gérant bizarre, qui a toujours des costumes flyés, veut les contrôler. Le documentariste veut contrôler leur image aussi. Mm-hmm. Il veut un peu embarquer dans le bandwagon, faire un peu d'argent, faire une sorte de renommée avec un genre de cinéma direct bizarre. Mm-hmm.
Ouais, c'est ça. Puis à l'inverse, t'as comme le journaliste, puis le paparazzi qui veut les détruire. Là. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est la chute des Spice Girls, mais comme... j'avais lu ça un peu aussi comme une espèce de les Spice Girls faisaient une espèce de menace, je dirais pas féministe, mais de femmes qui veulent contrôler leur corps, qui veulent contrôler leur image, qui veulent contrôler leurs actions, leurs faits et gestes. Et t'as tout cette panoplie d'hommes là,
cet appareillage, juste comme,
c'est ça, une espèce de patriarcat qui a plusieurs têtes là, qui essaie de les contrôler. Là. Moi, j'avais vraiment lu comme ça.
Un moment aussi, même elle refuse, tu sais, de faire le concert, puis elle décide de rester
avec
leur amie à la place, là, jusqu'à la toute fin, puis le suspense dure, c'est insupportable.
Ah,
mais
c'est terrible.
Tu vois aussi qu'à un moment donné, elle refuse, tu sais, ce rythme effréné-là. Mais si on peut aller dans une autre direction, sur une autre route, pour faire un jeu de mots, moi, il y a l'autobus dans ce film-là qui est, en soi, j'ai l'impression, un personnage qui me rappelle aussi un peu le TARDIS dans Doctor Who.
Ah bon?
C'est-à-dire que l'autobus, finalement, quand on voit à l'intérieur, c'est beaucoup plus grand que ce que ça peut être comme autobus. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en le revisionnant récemment à l'âge adulte, parce que quand j'étais jeune, je pensais que ça se pouvait,
je pense que dans Help aussi, je pense qu'il y avait comme un véhicule qu'on voyait à l'intérieur, ça avait aucun sens, mais j'ai peut-être complètement tort. C'est peut-être comme un jeu de souvenirs.
Ça se peut, j'ai pas vu Help, mais là, tu mentionnes le TARDIS, et là, je pense à Harry Potter, où t'as la tente de camping qui est vraiment plus grande, puis dans le dernier film, là, avec les créatures fantastiques, le petit monsieur, il rentre dans sa valise, qui est un zoo, en fait, tu sais, donc j'ai l'impression que ça revient souvent, et tous ces films-là sont britanniques, je pense qu'il y a un complot.
Il y a quelque chose ici.
Il y a quelque chose de tout petit que tu l'ouvres, là, c'est immense, tu sais, donc je sais pas, on va laisser ça en suspens peut-être, mais non, on parlait des hommes tantôt, et il y a Elton John qui est un allié quand même, qui est un ami, qui essaie de les aider de son mieux, et le petit monsieur dans le café qui est gentil, mais à part ça, oui, tous les hommes sont dans le chemin et tentent de les contrôler.
Mais ça, j'ai quelque chose à dire sur le véhicule, mais je vais revenir sur les questions en fait, moi, ça me fait penser beaucoup aux questions de fandom au féminin, particulièrement les fandoms de petites filles. Qu'est-ce que les petites filles aiment? C'est souvent les choses les plus détestées de la culture populaire et les plus les moins valides en fait. Puis pendant un certain moment, c'est ça, la, durant de 96 à 98, les Spice Girls étaient vraiment au top, puis leur auditoire premier était vraiment des petites filles, des filles du primaire partout dans le monde. Fait que c'était les plus, tu sais, invalides et illégitimes, des donc qui étaient vraiment, comme je disais, c'était ringard
ben, à la, au bout, là. Miley Cyrus quand il était plus jeune, ou Justin Bieber.
Exactement. Non, c'est quelque chose qui revient constamment. Moi, quand j'ai compris ce phénomène-là, c'est là que j'ai commencé aussi à plus aimer les Spice Girls. J'ai fait comme « fuck le patriarcat », justement, de la critique rock là, qui veut que seulement les messieurs de 25 ans qui font de la musique soient bons, là. Puis, mais c'est ça, en étant aussi dans le film, tu sais, aussi cru, aussi improvisé, comme on va pas se laisser faire. Il y a quelque chose de l'ordre, tu sais, j'imagine tellement des petites filles qui se font tout le temps dire « Arc, ta musique, c'est pas bon », qui voient ce film-là, puis qui peuvent vraiment réagir en disant comme non, tu sais, comme, non, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Puis l'auditoire. Ah! Puis être c'est vraiment en réaction.
Une parenthèse, l'auditoire représenté dans Spice World, c'est est très paritaire et c'est tous des adultes.
Ah oui?
Il y a beaucoup d'hommes adultes qui dansent sur leur musique. Mais c'est comme, c'est super étrange parce que.
C'est peut-être une question du DA.
C'est ça.
Il y a les deux petites filles qu'on voit avec elles passer une journée, un moment du film, là, avec elles. Elles font du bateau, justement,
Oui.
Qui gagnent un concours, quelque chose comme ça.
C'est vrai. Il y a aussi un jeune homme dans le. Étais-tu dans le coma où il était blessé, quelque chose à l'hôpital? Puis là, quand Mel B lui offre un bec ou quelque chose, là, il se réveille tout d'un coup, puis il est correct. Et il y a joué avec cette affaire-là aussi. Mais oui, leur audience, leur public. Leur audience. Leur public est vraiment est quand même varié aussi là.
À l'époque là, c'était vraiment très typé. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus et aussi dans les différences de représentation dans le film, c'est sûr là. Mais à l'époque là, je me souviens là, c'était clairement des petites filles qui aimaient ça là.
Puis on le dismisse comme une affaire de petite fille. Ouais. Donc c'est pas intéressant. Ça mérite pas qu'on l'étudie, ça mérite pas que ça soit valide, ça mérite pas qu'on le prenne au sérieux.
Ça, c'est un pattern qui revient encore aujourd'hui. Quand Ariana Grande a fait son show à Manchester l'année dernière, puis qu'il y a eu l'attentat, il y a eu une couple de monsieur, là, pas tant que ça, Dieu merci, là, qui était comme...
C'est mérité. J'aurais aimé ça mourir si je t'entends entendre Ariana Grande.
Ouais,
c'est dégueulasse.
Ouais, c'est dégueulasse.
Mais c'était pas dans Le Monde est à toi que Martine Delvaux en parlait, je pense, de ça.
En disant
qu'on méprisait les filles puis ce qu'elles aimaient.
Dans le cercle féministe, c'est un discours qui est connu depuis des années. Là, que c'est clair que qu'est-ce que les femmes aiment, qu'est-ce que les filles aiment, c'est dégueulasse.
C'est forcément moins bon.
Oui, c'est forcément incroyable. Mais est-ce qu'on... Pour revenir au véhicule, qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, le fait que ce soit comme un personnage, c'est que les Spice Girls, durant les deux ans où ils étaient tellement populaires, je pense qu'il y avait des maisons, là. Ils étaient constamment en train de bouger. Fait que je pense que ça parle, en fait, l'autobus comme étant un symbole d'une certaine mobilité, autant sociale que, parce que, mettons, Emma est née dans une famille, t'sais, une mère monoparentale, ça n'a pas été facile.
Ça, mais dans le film aussi, Spice World, à un moment donné, ils reviennent à l'ancien building où ils habitaient.
Oui,
c'était comme dans un quartier plus pauvre. Puis...
Ben, c'est pas le cas de Victoria. Là.
Non, c'est ça, c'est Victoria qui disait venir de l'aristocratie. Puis
c'est pas
Spice. La poche Spice.
Avec toutes ses robes Gucci.
Oh oui, c'est vrai, elle trippait sur Gucci. Oui,
c'est ça.
Avant d'elle-même faire ses robes.
Mais c'est intéressant aussi, le véhicule a tourné, mais c'est comme c'est leur maison maintenant.
Oui.
Puis ça devient. La maison, c'est aussi un peu une partie de leur identité. Puis cette identité-là est tout le temps en mouvement, mais tout le temps dans le monde des médias et dans le monde du vedettariat.
Oui, oui, complètement,
Ça va avec l'effet que c'est un groupe aussi, puis qu'on les présente comme un groupe et que, oui, elles ont chacun leur identité, mais c'est des identités qui se complètent, qui vont ensemble. Et juste, on regarde, c'est l'autobus est un autobus, mais quand on rentre dans l'autobus, dans le film, on voit que chacun a sa chambre, chacun a son coin.
Leur espace, absolument.
Son espace qui représente exactement son identité qui est construite par les médias
autour. Belle job de DA,
Oh, et la direction artistique est extraordinaire. Dans, t'as Emma, Baby Spice, qui est dans sa petite balançoire avec un son, puis là, la caméra se promène, et c'est sûr et certain que Sporty Spice, elle a soit des haltères ou un ballon de soccer.
Elle a ses dumbbells, puis elle monte ses muscles.
Donc,
c'est
ça qui est le fun.
Tu as monté ton autobus à la caméra derrière toi.
La caméra,
je savais pas
comme
que tu l'avais.
Donc voilà, c'est l'autobus dont j'ai fait l'achat à Londres.
La semaine dernière!
T'sais, exactement.
Ta gueule!
On a recréé la scène.
On a recréé la scène exactement du pont, parce que ça nous avait tellement fasciné. Fait que là, on va au pont,
Tower
au
Bridge.
Tower Bridge. Donc voilà. Donc c'est notre gros fun, mais c'est ça, c'est cet autobus là qui est un immense drapeau britannique, puis je m'en étais pas rendu compte. On dirait que j'avais quasiment oublié que c'était le drapeau d'un pays avant qu'on se rende là, où là tu te prends, ah oui, les édifices gouvernementaux ont ce drapeau là.
C'est pas juste un motif fashion.
C'est pas juste le drapeau des Spice Girls, tu sais, c'est le drapeau du pays. Non, mais c'est pas que je pensais ça, mais j'avais quasiment oublié que c'était le drapeau du pays.
C'est comme le drapeau des États-Unis, on le voit tellement partout que
t'oublies que c'est le gouvernement ou que c'est l'État, tu sais, que ça représente un État, que ça représente des frontières politiques et tout ça. Donc, c'est ça qui m'a frappé un peu en prenant dans la ville. Et aussi, on est allé entre autres parce que c'est la ville des Spice Girls, tu sais.
Nice! Vous avez choisi ça pour ça?
En partie.
C'est une des raisons de sa pèlerinage.
Oh oui.
Oh. Mais en même temps, comme on disait tantôt, tout le... J'essaie encore de faire un lien entre le TARDIS, la valise, la tente de Harry Potter, puis... l'autobus, puis j'arrive pas à le faire, mais on dirait qu'il y a quelque chose.
Oui, mais il y a quelque chose, c'est que c'est tout britannique, c'est tout des genres de petits endroits magiques où tu rentres, puis là, ça devient plus grand que nature.
Bigger on the inside, là. Oui, ouais, c'est ça, mais il y a comme une espèce de monde du rêve qui fait irruption dans la réalité, mais tu sais, c'est un peu ça, les Spice Girls, là. C'est une narration qu'on nous présente comme quelque chose qui existe dans le même univers que nous, mais dans le fond, c'est juste, c'est une fiction à la base, mais en vieillissant, c'est devenu un groupe qui continue ça. Les Spice Girls continuent à se parler sur Instagram.
Ça, c'est la grande ironie de toute cette histoire-là. L'histoire prend au sens de récit, mais de longévité dans le temps. Là. Autant les Riot Girls, là, les groupes de Riot Girls sont plus ensemble, je parle plus, j'en suis convaincue, mais les Spice Girls, qui est un groupe arrangé, cinq filles d'horizons différents, qui sont devenus des amis, sont restés des amis. On a des multiples preuves sur Instagram à chaque jour. Elles font référence à des sorties. Puis là, on parle juste des trucs promotionnels cheapettes, là. Genre, ils vont faire du patin ensemble. Leurs enfants se connaissent. C'est comme vraiment beau. S'il y a quelque chose pour moi à retenir de Girl Power, c'est justement l'amitié, la solidarité entre femmes. J'ai des frissons, là, pas parce qu'il fait froid dans le studio, là, genre, je tripe vraiment sur cette notion-là qui a été, je trouve, à part c'est vrai que Jerry est parti en claquant la porte un petit peu, mais à part ça, là, que je trouve tellement bien incarné dans ces filles-là.
J'ai l'impression que ça a dû être une expérience tellement intense, quand on regarde leur succès, c'était surtout entre 95 puis 97. Mais, tu sais, de se retrouver dans la jeune vingtaine, propulsée, tu sais, avec une renommée internationale dans le monde, puis de, tu sais, de devoir faire face à des horaires comme impossibles, de voyager partout, d'être poursuivie par les paparazzis, c'est sûr que veux pas, ça soude ces filles-là, puis ça crée une solidarité qui doit effectivement encore exister aujourd'hui.
C'est ça, mais il pourrait, comme aujourd'hui, vouloir s'arracher la face, là, je comprendrais vraiment pourquoi, mais non, c'est pas le cas, ils s'aiment encore, ces filles-là. T'sais.
C'est une des choses qui m'a frappé aussi, tu le mentionnes, jeune vingtaine, mais on dirait que j'en étais pas rendu compte parce que quand t'as 8 ans, t'es les adultes ont 45 ans et plus. Mais j'en étais pas rendu compte à 8-9 ans qu'elles avaient la jeune vingtaine. Et là, en écoutant le film à 27 ans, je fais « Oh là, ils sont toutes vraiment plus jeunes que moi quand même. » Et imagine leur vie, imagine c'est quoi cette vie-là pendant quelque chose comme 4-5 ans, être vraiment
au top
puis faire le tour du monde constamment, que c'est ça ton travail, que t'as pas vraiment de maison, que de vivre avec cette relation-là avec les fans, tout ça. Puis je me dis, ah, ils ont comme 22-23 ans, tu sais, je pense à des amis que j'ai qui ont cet âge-là, je me dis, tabarouette, ça va être quelque chose à vivre, puis qui sont encore amis, moi j'ai envie, en sortant, de les ajouter sur Instagram, puis de les suivre, tu sais.
C'est un autre lien avec les Beatles aussi, les Beatles c'est exactement la même chose, même encore plus intense parce qu'il y avait encore moins de segmentation de marché qu'il y avait à la fin des années 90, puis qui sont restés des potes, là. Il y a des tensions entre Paul McCartney puis John Lennon, mais ils s'aimaient bien, même plus que bien. Là. C'était des
tensions créatives.
C'était des amis. Oui, c'est des tensions créatives. Là, bon.
Encore aujourd'hui, si Ringo et Paul se croisent dans la rue, ils vont se donner un high five, c'est certain. Clair,
mais ils font des soupers ensemble.
Ils mangent de la raclette.
Ils mangent de la raclette. Moi, juste cette image-là de Paul et Ringo qui mangent de la raclette, ça me remplit d'arc-en-ciel.
Je pensais que la raclette, c'était réservé aux banlieues de la couronne nord et sud de Montréal.
Mais sûrement qu'ils se rejoignent
Là-bas. Pas d'impôts en Suisse, puis...
Ah oui, non, non, d'après moi, ils se rejoignent genre à Saint-Jérôme, puis ils font une raclette. Puis après ça, ils appellent les Spice Girls pour les rejoindre, mais c'est bien trop gros.
Ça prend deux plats à raclette.
Oui, okay. Deux sets de raclette sur une longue, longue table.
Mais pour revenir justement, puis ça fait quand même lien avec la raclette, étonnamment, mais l'idée que les Spice Girls, ça peut être nos amis, mais oui, tu sais, oui. Les réseaux sociaux aujourd'hui, Instagram, c'est tu rentres dans leur intimité, dans leur vie de tous les jours, mais ça donne encore plus cette impression-là, j'imagine.
Oui, puis là, elles peuvent déjouer les paparazzis.
Ouais, oui, ça peut rester dans leur cours puis faire des stories Instagram.
Oui, exact.
Puis en même temps, y a le contact avec les fans reste. Là.
Ouais. Oui.
Et puis la photo du paparazzi ne sert plus à rien ou n'a plus de valeur, même pour le paparazzi lui-même ou elle-même. C'est-à-dire, ça me donne rien d'aller. Le jeu est un paparazzi, là. Ça me donne rien d'aller suivre Jerry Halliwell, la prendre en photo dans sa cour ou en train de sur le bord de sa piscine. Si elle-même le fait et le met sur Instagram, ouais. Ma photo n'a plus aucune valeur, en quelque sorte. Je ne peux plus la vendre au Sun ou à peu importe, aux journaux.
C'est intéressant, là, parce que ce sont elles qui prennent le contrôle de leur image aussi. Ouais. C'est elles qui décident. Quelles images elles mettent.
C'est pas les seuls, c'est pas mal une.
Non, c'est ça.
Mais c'est intéressant de voir ce revirement-là.
Oui, tout à fait.
Cette réappropriation-là.
Surtout des vedettes des années 90 là, qui ont vécu cette relation-là super intense avec les paparazzi, chasseurs d'images.
Mais je suis pas certaine jusqu'à quel point. T'sais, oui, avec les médias sociaux, elles peuvent plus contrôler l'image qu'elles projettent, mais je me demande jusqu'à quel point, t'sais, au contraire, avec Internet, avec. T'sais, la facilité à laquelle des photos peuvent être prises et envoyées, je me demande, t'sais, je me dis, aujourd'hui, j'ai l'impression que les vedettes sont encore moins à l'abri de toute cette pression-là des paparazzi.
Ben, c'est vrai que, ouais, bon point, là, parce
ça
que...
Ça se passe vite, il y a aussi la question des pirates, là, il y a des hacks qui sont physiquement possibles.
Oui, bon, oui.
Donc, on a vu des leaks dans les dernières années là. Mais non, il y a ça, mais en même temps, c'est ça, on dirait qu'il y a tout ce contrôle-là, comme tu dis, puis en même temps, il y a le danger, puis le fait qu'on peut facilement, le paparazzi peut facilement envoyer ça au journal, et là, ça pop sur Internet la seconde même, ou la minute même, tu sais. C'est très, très vite, alors qu'en 97, ben là, il faut qu'il ait développé la photo, puis c'est plus de troubles, là.
Mais le personnage du paparazzi dans Spice World, c'est intéressant. Quand t'arrives aussi à la fin... Parce qu'il y a toute la trame métanarrative où tout le long du film, t'as le writer, l'écrivain, le scénariste qui pitche des idées de films qui sont complètement rocambolesques. Puis à la fin, il raconte une dernière histoire qui est le film qu'on vient d'écouter. Donc, puis c'est ça. Après, la caméra se retire un peu à la Holy Mountain dans Jodorowsky, mais vraiment plus marketing. Mais et là on voit le personnage du paparazzi, ben l'acteur en fait, qui est comme ah mais non, mais tout le monde va m'haïr parce que je suis vraiment un méchant.
Oui.
Les enfants vont me frapper dans la rue. Mais c'est ça, il y a comme toute cette réflexion là qui se déploie dans cette ironie du film de star là, mais je sais pas si c'était présent dans les films dont tu mentionnais au début, mais
ça me dit rien. Des Beatles, mais ben, en fait, ça me fait penser...
Il y avait des journalistes, il y avait une genre de mais c'est plus des journalistes culturels que des paparazzi, en fait, des années 60. Fait que moi, j'ai juste vu Hard Day's Night, en fait, même pas au complet, je pense. J'ai pas vu Help. Faudrait peut-être que je les vois, mais faudrait donc... Hélène qui me fait oui de la tête comme ça, donc j'écouterai ça bientôt, mais non, c'est surtout les journalistes, je pense, qui discutent avec les Beatles.
Mais il y a un autre film qu'on n'a pas parlé, mais qui est absolument mineur, là, je pense. Il y a eu un film sur ABBA. Quand ABBA était très populaire, je pense c'est ABBA the movie là, quelque chose. Puis justement c'est l'histoire d'un journaliste qui veut aller parler à ABBA, mais ils sont tellement huge qu'il n'arrive jamais à les atteindre. Puis là je pense que le lien peut se faire là, parce que il se voit aller, ce journaliste là, puis je sais pas si je m'en rappelle plus là, s'il y a un discours comme waouh, le monde va m'haïr, parce que mais il essaie vraiment toutes les entourloupettes possibles pour aller rencontrer les quatre membres d'ABBA en backstage après leur tournée en Australie, je pense.
Wow. Ça fait partie des codes du genre, en quelque sorte. C'est pas un genre qui est super musicaux. Déployé, là, mais les films musicaux, d'avoir la présence des fans, les charts, les journalistes, les paparazzis qui courent après, le genre de côté vie intime un peu plus où on est à la maison, dans l'autobus.
Mais Spiceworld adresse justement tout cet artifice-là.
Oui, puis...
Dans le fond, c'est juste une histoire.
C'est super éclaté, c'est super postmoderne, c'est super années 90, ça va dans tous les sens, il aborde absolument tout.
Il y a des extraterrestres.
C'est ça, il y a une trame narrative, mais quand même, tu sais, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a ça qui se passe. Moi, je ne me rappelle plus d'une histoire clair, là.
Non, il n'y a pas, ça, y a genre, pas un, vraiment... une trame narrative qui est claire. Puis je pense à ça, puis ça me fait penser à visuellement, puis dans le montage des éléments du début années 90, mettons, de films qui ont été super salués par la critique. Tout ça, tu sais, tu regardes Trainspotting ou Reservoir Dogs ou des films comme ça qui visuellement, le gars parle, il y a du monde autour de lui, la caméra tourne, les gens sont plus là, t'es quand même à moitié dans le rêve dans certaines scènes. Trainspotting, le gars rentre dans une toilette.
Oui, oui.
Voilà, donc,
s'enfonce
dans le plancher. Il y a un paquet d'affaires quasiment surréalistes comme imagerie qui est produite dans le film des Spice Girls, mais qui est tournée à l'humour, qui est tournée en ironie.
Ouais.
Il est déconstruit. Ah, ben, tu pensais que c'était juste un autobus, tu rentres dedans, c'est rendu un immense palais où tout le monde a sa propre chambre et
toute on la peut scène se balancer. Avec l'autobus qui saute par-dessus le pont.
Ah,
mais
oui.
C'est parce que le scénariste est en train de raconter l'histoire, puis là, il dit ah oui, puis là, ils vont arriver devant le pont, puis le pont va être en train de se lever, puis là, ils pourront pas passer, fait que là, ils vont essayer de sauter, puis là, le producer fait « Ah, mais ça va coûter cher, tout ça! » Puis là, c'est là que tu vois le carton.
Mais c'est un film quand même très drôle. Il y a un bon humour dans ce film-là. Puis, tu sais, c'est pas des petites blagues faciles puis plates, là, mais il y a vraiment un niveau d'ironie qui est quand même assez recherché. Puis,
C'est ça qui est vraiment surprenant pour un groupe qu'on pensait comme cheap, qui se font écrire leurs chansons, qui a été assemblé de toutes parts, d'avoir un niveau de réflexion métanarrative ironique à ce point-là. C'est tellement surprenant. Je pense qu'ils ont surpris plusieurs personnes.
Je
dans
pense que c'est une des choses aussi qui fait en sorte que ce film-là vieillit bien même. Là, puis c'est comme un bon vin. Là, on le savoure aujourd'hui. Puis c'est encore meilleur qu'à 8 ans.
Ça a été fait avant la vague où tous les films sont... Aujourd'hui, tous les films sont métanarratifs ou presque. C'est constant. Il y en a partout. Toutes les émissions pour enfants ont des commentaires métanarratifs. Fait que ça perd un peu aussi de sa portée critique aujourd'hui. Mais en 1997, j'ai pas l'impression que c'était la majorité qui faisait ça, c'était encore... Puis un film des Spice Girls. Là,
oui, c'est ça, c'est comme... des cinémas d'auteurs ou du cinéma indépendant qui faisaient qui avaient des dispositifs comme ça.
C'était comme un produit dérivé, quasiment.
Complètement.
Fait que, d'intégrer ça là-dedans, c'est complètement éclaté. Là,
Oui, mais ça va un peu, je pense, avec leur autonomie, leur indépendance qu'elles proclament ou qui fait partie intégrale du film, en fait. Puis ça me fait penser, je l'ai pas plugué encore, là, mais j'ai trouvé un mémoire de maîtrise écrit par Ashley Lorraine Smith.
Lorraine. Ah, OK.
Ashley Lorraine Smith de l'Université du North Texas en août 1999, fait que 2 ans après le film, fait que sûrement qu'elle l'a écrit pendant quand le film sortait ou peu importe, après la vague, exactement. Donc Smith mentionne, le fait que les féministes de la deuxième vague rejetaient du revers de la main les Spice Girls parce que c'était trop pop, trop mercantile, trop petite fille, justement, sûrement, j'imagine. Mais aussi, elle mentionne que c'est Virgin qui fait le producer qui fait les auditions pour trouver les Spice Girls et avec un producteur, puis quelques mois ou années après, les Spice Girls renvoient le producteur,
deviennent
juste une gang
de
chums qui se connaissaient même pas avant, mais qui reprennent le pouvoir de ça et engagent Simon Fuller suite, qui lui va un peu redéfinir ou aider à redéfinir leur identité peut-être un peu, mais je pense que c'est ça, comme tu disais, c'est les médias surtout qui ont imposé cette identité-là.
Trouver, en fait, Simon Fuller a beaucoup aidé pour trouver leur son, trouver les bons collaborateurs du premier album, et Dieu sait qu'il a réussi, mais je veux pas non plus... dire que les Spice Girls, c'est juste l'histoire d'un homme, loin de là. Les filles ont amplement participé à leur succès.
C'est le fait qu'elles ont été engagées par ce producteur-là. Une fois rendues amies ensemble, ils ont dit bye-bye le producteur, ta job est faite. On va en trouver un autre qui va faire une meilleure job. Et donc, cette genre de prise de contrôle de leur destin et dans le film est présente dans les chansons, dans tout le girl power, en fait, cette reprise de pouvoir de dire que non, prends ta vie en main. Puis
mais dans le film aussi, on le voit un moment là, elles pensent, je pense, à se débarrasser de leur espèce de manager.
Oui, ils ont pas peur de aucun homme, même Roger Moore, tu sais, on va le rouper, on le renvoie, au pire on s'en sort, on est les Spice Girls, c'est nous autres qui est importante dans tout le produit qu'on offre, c'est nous autres qui compte, fait que c'est nous autres qui va être en contrôle, fait qu'on va bien aller prendre une ride de bateau dans la Tamise, faire toutes sortes de foleries comme ça, puis s'amuser, puis être nous-mêmes, puis définir nous-mêmes notre identité, c'est ce qu'elles disent, tu sais, c'est ça qui est le fun, je trouve, puis qui fait que c'est pertinent aujourd'hui.
En terminant, est-ce que vous étiez identifié à une Spice Girl quand vous étiez jeune ou aujourd'hui?
Ah, man, quelle question difficile.
Ah, j'aurais dû vous préparer. Oui.
Ah, moi, je les aime toutes.
Moi, c'est plus Ginger Spice parce que je suis rookie.
Je trouve que Jerry a quelque chose de spécial parce que c'est ça, elle est vraiment grande gueule, puis c'est elle qui est partie parce qu'il y avait comme une guéguerre avec Mel B, puis parce que Mel B était comme, on va, c'est ça, on, calmons-nous sur le girl power, là, puis Jerry était comme, non! Puis, ouais, Jerry, je l'aime vraiment beaucoup.
Celle qui fait le film aussi, là, c'est le, la comédienne plus physique. La façon qu'elle joue dans le bootcamp aussi, elle marche pas comme les autres.
C'est vrai,
mais vraiment, c'est la plus indomptable de la gang aussi.
J'ai l'impression que c'est un des personnages aussi les plus exubérants dans, dans le film. Là.
Ah oui.
Puis tellement no apology, cette fille-là. Ah, ouais. Elle a posé nue avant d'être... Elle voulait vraiment être populaire, cette fille-là. C'est, elle voulait être célèbre. Là. C'était ça, son but dans la vie. Parce qu'elle chante pas très bien, mais elle, elle a un bon sens de la composition, mais elle chante pas super bien. Puis elle avait posé nue avant, puis justement dans le documentaire qu'elle a fait, quand elle a quitté les Spice Girls, elle allait montrer les photos, puis vraiment comme... Ben ouais, genre, elle est tellement... elle s'excuse tellement pas, je l'aime vraiment beaucoup.
Il va falloir que j'écoute ça.
Ouais, j'aimerais ça le revoir, ce documentaire-là. Je me rappelle, la soirée, je l'ai écouté, c'était à Musique Plus, là. J'habitais encore chez mes parents, là, puis j'étais comme... C'est la première fois que j'entendais autant de vérité, comme sur l'industrie de la musique, qu'on a tendance à romantiser, tout ça. J'étais dévastée, genre, j'étais comme... Oh, c'est comme ça, la réalité d'une pop star mondiale, est toute seule à... Elle essaie de refaire partir sa carrière solo, elle trouve ça super tough et démunie, genre, j'étais bouleversée, là, j'étais bouleversée. J'aimerais ça, là, je sais même pas c'est quoi le titre, là, sérieux, genre, faudrait...
Sur Internet, IMDb,
on va tout trouver.
L'Internet
est là.
Toi, est-ce que t'avais une Spice Girls préférée, Baron?
Je sais qu'à l'époque, je pense que j'avais... ma préférée, ça devait être Emma, parce qu'elle était plus légère, plus drôle, plus...
Quelle bonne chanteuse!
Tu sais, fait que... Mais en regardant le film, c'est vraiment plus Jerry qui sort du lot, là, qui est vraiment trop cool, puis trop invincible, puis en même temps fragile, puis... C'est un personnage vraiment plus complexe que les autres aussi, puis le fait que c'est elle qui claque la porte là, après le film. Là, mais,
avec nos lunettes d'aujourd'hui, on peut on s'identifie plus à Jerry, ouais, c'est sûr. Là.
Et je trouve que celle qui a fait la meilleure carrière solo après, en fait, j'hésite entre deux, Emma et Mel C. Je trouve que les deux, on est superbes carrières solo, autant musicalement que dans d'autres sphères. Emma est devenue comme animatrice à la télévision britannique. Mel C continue à faire plein de shows, plein d'albums. C'est vraiment le fun de les voir aller.
Est-ce qu'ils font encore des tournées en ce moment?
Là, il y a des rumeurs de réunion pour une nouvelle tournée. Il y en a une en 2007.
Avec ou sans Jerry?
Avec Jerry, avec Mel C. C'est souvent Mel C qui est comme, moi, j'ai pas besoin de vous, les filles. Ouais, je fais des tournées.
Il avait fait aussi un show ensemble aux Jeux Olympiques à Londres.
Oui, ça avait levé.
C'était incroyable. Ouais.
Mais de les voir, tout ensemble aussi dans le stade et...
C'était vraiment le fun.
C'était pas la première fois qu'elles chantaient toutes ensemble depuis leur
réunion. Non, depuis leur réunion tournée de 2007.
OK.
Ben, ça faisait quand même 5 ans.
Ouais. C'était inattendu, personne le savait là. C'était vraiment le fun de les voir arriver dans leur Jeep là. C'était vraiment nice.
Ça, ils arrivent chacune de leur direction, chacune de leur vie, tu sais, de
puis avec c'est Spice Up Your Life là, avec ces fameuses harmonies vocales de Spice Up Your Life au début. Si je me souviens bien.
Donc.
Et toi, Megan?
Oui,
moi aussi, Jerry, définitivement.
Ben ouais, on a un consensus ici. Là.
Mais moi, c'est les Baby Spice. Ça sera une autre émission.
Oui.
Ben, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Camille. Merci, Baron. Et on va aller terminer cette émission en musique avec Spice Up Your Life.
Yay! Hey!